Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Father, mother, sister.
Why don't you listen to me?
J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir.
Cuando decidí hacer un arte para sanar, salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo. Y me lo hace.
¡Aquí estoy!
La médecine est un art. D'un certain point de vue, les maladies sont des rêves, des messages qui révèlent des problèmes non résolus, affirme le cinéaste, scénariste, poète, dramaturge panique et tarologue chilien Alejandro Jodorowsky, 90 ans, l'auteur de La Montagne Sacrée ou de L'Incal avec Moebius, dans son livre Psychomagie, recueil d'entretiens sur cet art qui guérit, sorti l'hiver dernier chez Albin Michel. Dédié aux jeunes mutants, l'ouvrage se prolonge sur grand écran via un documentaire extraordinaire en salle le 2 octobre. Dans Psychomagie, le film, une dizaine de consultants anonymes et Arthur H. réalisent un acte symbolique en dialogue avec leur inconscient, imaginé gratuitement par Jodo et susceptible de dénouer des frustrations, des peurs, des deuils impossibles à gérer et ainsi sortir de la cage psychique dans laquelle notre famille, notre société et notre culture nous ont enfermés. Mais quelle est l'origine de ce théâtre de la guérison? Comment commencent les séances? Quelles leçons pouvons-nous en retirer pour aborder la rentrée en toute sérénité à l'heure où El Viejo s'apprête à être honoré d'une rétrospective à la Cinémathèque de Paris du 30 septembre au 9 octobre? Tandis que Jodorowsky publie, avec le dessinateur italien Théo, le dernier tome de sa fresque foutrement blasphématoire « Le pape terrible, l'amour est aveugle » aux éditions Delcourt, pendant que son adaptation du « Gorille » de Kafka reprend jusqu'au 3 novembre lucernaire à Paris, ou qu'il nous incite, le jour de l'indépendance du Brésil, à planter un arbre, une graine, pour contrecarrer les incendies et la déforestation criminelle de l'Amazonie. Pour le savoir, le maître nous a reçus la semaine dernière à domicile en pantoufles de velours noir ornées de couronnes dorées pour une conversation très spirituelle en 2 épisodes d'une heure. Ces artistes qui clament que ce monde est foutu, écrit Jodorowsky, que nous n'arrivons à rien, c'est ça la mauvaise littérature. Montrer son nombril, raconter qu'on a bu son café au lait le matin, au milieu du malaise général, alors que tout est pourri autour de soi. Pendant que tout le monde agonise, moi je bois mon café au lait ou j'effectue mon petit acte sexuel. C'est dépassé. Il faut traverser le rideau névrotique. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouverez cette fois, pour sa 9e saison, tous les dimanches, de midi à 13h, tel un oasis dans votre brunch.
The mind is like a universe. It's a constant expansion. Like the universe. Exactly like the universe. Open the mind. The opening of the mind is every day.
Bonjour, Alejandro Jodorowsky.
Bonjour.
Merci infiniment de nous recevoir chez vous. Ma première question s'adresse en partie à votre inconscient. Est-ce que vous avez rêvé la nuit dernière? Et si oui, de quoi avez-vous rêvé?
Pendant ma longue vie, j'ai fait de différentes sortes de rêves. J'ai commencé par des rêves d'angoisse. Alors, il y avait des monstres qui voulaient me dévorer, et je m'échappais. Et après, à la fin, fatigué de ces rêves, je me suis laissé manger. Et dans le moment que les monstres ont commencé à me manger, les monstres ont disparu. Alors, j'ai commencé à faire des rêves sexuels. Avant, c'était ce qui arrivait. Après, peu à peu, dans mes rêves, j'ai commencé à choisir mes partenaires. Ma partenaire. Et comme ça, les rêves sont arrivés, c'est fini. Il n'y avait plus besoin de ces rêves. Il y avait beaucoup de choses, de voyages hors de la planète, traverser le cosmos, devenir plusieurs personnages différents. Et maintenant, je suis le même. Dans mes rêves, je ne change pas. J'ai fait des films, j'écris des livres, je donne des leçons de tarot. C'est simplement ça.
Lorsque j'ai découvert votre nouveau film, Psychomagie, vous étiez dans la salle de projection et juste après, vous avez dit « L'art qui ne guérit pas, l'art qui ne réveille pas, l'art qui endort est inutile ». Alors nous sommes chez vous, dans votre bibliothèque, entourée de 1000 livres.
Oui.
Parmi tous ces ouvrages qui se trouvent dans cette pièce, quel est le dernier dont la lecture vous a réveillé, soigné, guéri?
Les lits-là se reposent parce que je suis déjà guéri. Ils sont devenus inutiles. Simplement, ils m'amusent. Ils m'amusent, ils m'enrichissent, mais la guérison n'existe plus. Si à mes 90 ans, j'étais encore malade, je serais un imbécile. N'est-ce pas? Malade spirituellement. Je ne le suis pas, j'ai le droit de ne pas être malade.
Ça, c'est vrai.
Bon. C'est ça que je cherche. Quand je dis « je cherche un art qui guérit », c'est simplement ça. L'art véritable a très peu de public. On ne peut pas s'adresser à un public connu. On doit créer son propre public. Donc ça va très, très, très lentement. Mais ça dure beaucoup plus que l'autre art. La mise main, dès que tu le vois, tu l'oublies. Quand un art t'a donné quelque chose, tu n'oublies jamais. Voilà la différence. Mais voilà, donc on est patient, persévérant, on vit pas trop richement, on cherche pas ni le pouvoir, ni la célébrité, n'est-ce pas, ni l'argent. Ce qu'on cherche, c'est sauver notre mère terre. C'est ça qu'on cherche, sauver notre humanité. C'est ça qu'on cherche. On sait que si on progresse, on a une énorme destinée. Nous sommes la pensée de la pierre.
Comment est-ce que vous avez découvert ce qui est devenu les bases de cette discipline, la psychomagie? À quel âge? Auprès de quel maître? Et surtout, dans quel état émotionnel, personnel, vous trouviez-vous à l'époque?
Le maître était ma souffrance, pas de maître. Parce que je viens je suis né dans un petit village au nord du Chili, non? Petit, petit, enfermé, non? Comme dans une prison, pas une préparation culturelle. Mon père, c'était un émigrant qui avait un petit magasin pour vendre des sous-vêtements de femmes. Ma mère, c'était une esclave domestique. Hein? Alors, je n'ai rien eu. J'ai dit, me faire moi-même. Peu à peu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai appris à lire quand j'avais 5, 6 années. 5. J'ai appris à lire, mais très bien. Par un miracle. Non? Par cette synchronicité de la vie, le professeur qui m'a appris à lire s'appelait Monsieur Toro. Toro. C'est le taureau, non? Monsieur Taureau. Et mon autre maître, après plus tard, à partir de 18 ans, c'était le tarot. Parce que, précisément, une femme française de 60 ans avait arrivé au Chili, avait épousé ou avait fait couple avec un garçon de 17 ans. Elle lisait le tarot et nous recevait à nous les jeunes poètes, parce que j'étais poète à cette époque, à 2h du matin, et nous faisait une soupe. Et là, j'ai eu mon premier contact avec la magie. Pas la mauvaise magie, ça veut dire, la magie, c'est la partie de la vie qui est à côté de nous, mais que nous ne voyons pas. Le monde de l'inconscient, le monde du mystère. parce qu'on vit dans le mystère, on ne connaît pas la matière de l'univers qui est, les 1%. On ne sait pas ce que c'est la matière noire de l'univers. On ne sait pas ce que c'est la planète Terre parce qu'on connaît jusqu'au kilomètre 16 de profondeur. Et après, c'est un mystère absolu, total. Est-ce qu'il y a un océan dedans la Terre? Est-ce qu'il y a une autre race de êtres humains ou des animaux? Est-ce qu'il y a une chaleur insupportable? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cerveau. Nous connaissons les 10% de notre cerveau dans la conscience. Dans les rêves, il y a... Dans les rêves, on capte certaines choses de notre mystère. On ne sait pas en ce moment pourquoi ton cœur que tu m'écoutes et mon cœur qui va, pourquoi il va comme ça? Et pourquoi on a une limite à notre existence? On ne le sait pas. Donc on vit dans le mystère. Et c'est ça le monde préféré d'un véritable art. Qui tu es? Où tu es? Et jusqu'à quand tu seras là? Ce sont des thèmes beaucoup plus importants que la politique. On nous habitue à chercher la vérité. Mais la vérité ne va jamais tout seul. Au moins, c'est trois choses, la vérité. C'est la vérité, la beauté et la bonté. Trois choses. Mais sans vérité, il n'y a pas de beauté ni de bonté. Sans beauté, il n'y a pas de vérité ni bonté. Sans beauté, il n'y a pas de beauté ni de vérité.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless, senseless. I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining. My darkness is shining. Everything in myself. Truth. I seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from divine. Say you're my love. Say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Because light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in ourselves. I'm not afraid to die.
La vérité, titre de cette jolie ballade signée en 2011 par l'américain Alexander Michael Takis Hibbert, dit tout simplement Alexander. Il s'agit, je vous jure que c'est vrai, du tout premier morceau que j'ai présenté sur Nova avant même la création de cette émission il y a 8 ans.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Alejandro Jodorowsky, le cinéaste, poète et scénariste chilien Alejandro Jodorowsky, 90 ans, l'auteur d'El Topo, des Yeux du Chat ou de la caste des Métabarons, est mon premier méta-invité de la saison pour la sortie de son nouveau film, le documentaire Psychomagie, en salle le 2 octobre. Nous sommes aujourd'hui chez lui, à Paris, dans la pièce où il travaille, en pantoufles de velours noir à forte connotation présidentielle.
Quand j'ai envie d'écrire un poème, je l'écris. Si j'ai envie de faire un film, je le fais. Je suis pas un touche-à-tout. Si je suis un plonge-à-tout. Ce n'est pas superficiel, c'est profond. Et je le fais profondément, mais tout a la même importance pour un artiste. Même pour un artiste, mettre ses chaussures, c'est de l'art. Tandis que pour un policier, mettre les chaussures, c'est un moyen de donner un coup de pied à quelqu'un. C'est différent.
Il vous arrive même, à propos de vos chaussures, qui sont d'ailleurs très très belles, je dois le signaler, hein, vous avez des pantoufles avec des couronnes dorées, de roi peut-être, dessus.
Non, c'est l'imitation des chaussures qu'il y avait dans sa maison Mitterrand.
Ah bon? Il y avait ce genre de chaussures
par humour. On appelle les Mitterrand. Ah ouais, ces chaussures.
C'est magnifique.
Elles sont hyper confortables.
Il vous arrive parfois, quand vous êtes en sécheresse créative, je crois, de mettre dans vos chaussures une touche de miel pour essayer.
Ça, c'est la psychomagie.
C'est ça.
Bueno. À 18 ans, j'appartenais à un groupe de poètes. Et dans ce groupe de poètes, on lisait tous les poètes du monde. Et on lit la poésie de le futurisme italien. Bien sûr que le surréalisme, non? Le futurisme italien. Le futurisme italien, Marinetti a dit, la poésie est un acte. Plus que des mots, la poésie est un acte. Et nous, on a compris qu'est-ce que c'était l'acte poétique. On a inauguré, par exemple, une conférence de poésie à côté de la rivière au Chili, où il y avait une construction faite par des fourmis. Et nous, les poètes, on a récité les poèmes très, très, très romantiques, non? Délicats, romantiques, pendant qu'à coups de pied, on détruisait les fourmiliers. Il a sorti une foule de fourmis. On a aimé beaucoup, on était très orgueilleux de notre acte poétique. Mais ce n'était pas un acte poétique, c'était un acte odieux. Parce qu'un vrai acte poétique n'est pas violent, il est constructif. Il est un poète japonais, ancien, qui faisait des haïku, qui sont des poèmes de trois petites lignes, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, très peu. Et un élève lui dit, maître, j'ai fait cette petite haïku. Et ici, un papillon. Je l'enlève les ailes, j'ai un petit piment. Non, dit le maître, c'est très mauvais. Je vais te le corriger. Lis maintenant. Voilà un petit piment. Je l'ajoute des ailes, j'obtiens un papillon.
Et là, c'est constructif.
Et là, c'est l'acte positif et l'acte poétique.
Okay.
De l'acte poétique, je suis passé à l'acte théâtral. Parce que j'ai fait au Mexique une centaine de spectacles. Avec l'art absurde, Ionesco, Samuel Beckett, Arrabal, que j'aimais beaucoup,
Fernando Arrabal,
avec tout, Strindberg. Et j'ai montré au Mexique c'était l'art absurde. Mais dans un moment donné, comme j'étais un esprit révolutionnaire, j'ai dit pourquoi on fait l'art du théâtre dans un édifice qui descend du roi de France qui s'appelle Théâtre. Où il y a l'ailier du roi, que c'est le meilleur point de vie, et après les pauvres sont à côté, etc. Il faut sortir le théâtre du théâtre. Et j'ai commencé pour faire une œuvre de théâtre dans un autobus qui s'arrêtait, se promenait dans la ville, et s'arrêtait dans certains points, et monter et descendre les acteurs. Ça a eu un grand succès. C'était une promenade en autobus. Qu'est-ce que c'est le théâtre? Comment on peut le faire? Et j'ai pensé, on va donner à une personne un acte et qu'elle fasse un acte devant des gens. Et j'ai commencé, donc, dès que je réunissais une somme d'argent suffisante, j'ai payé à des personnes, c'était un acte gratis, pour qu'elles se décident à faire dans un spectacle de moi un acte de son choix. Si toi, je te donnais 4000 francs pour que tu fasses un acte, qui dit 10 minutes, 5 minutes, non? Qu'est-ce que tu ferais? Et personne ne connaît ton nom, tu arrives anonyme. Une danseuse de classique m'a dit, je voudrais danser la mort du cygne avec un tutu, mais sans culotte et pisser pendant qu'il danse la mort du cygne.
Parfait.
Fais les pisses pendant la mort du cygne. C'est réalisé. Un autre, un étudiant de philosophie, m'a dit, je vais lire un livre de Kant, de philosophie, que c'est très difficile, en même temps qu'avec des œufs crus, je les éclate dans ma tête.
Pendant qu'il lit Kant, j'éclate des œufs dans sa tête.
En m'écrasant de voilà. Alors, etc., j'ai commencé à inventer des actes comme ça, poétiques, théâtrales. Et de là, je suis passé à traiter des malades. Mais pas des maladies normales que les médecins traitent, non? Je ne me suis pas pris par un médecin, sinon des problèmes psychologiques, des problèmes spirituels. Et j'ai inventé la psychomagie comme ça, inspiré du tarot. Hein? Mm-hmm. Mais j'ai fait des actes gratuits, hein, parce que pour moi, sont sacrés. Le tarot, c'est gratis. Et la psychomagie, produit du tarot, est gratis. J'ai utilisé le tarot. Non pour voir le futur, sinon comme un test pour voir le présent et du présent déduire le passé. Pourquoi tu es arrivé à ça? Il y a une racine, cherchez les racines. 8 minutes pour trouver le problème. On lit le tarot et la personne devant, on travaille ensemble et on arrive. Ok, je suis amoureux de ma maman. Je suis amoureux de ma maman. Amoureux comment? Sexuellement. Je vais faire l'amour avec ma maman. Et voilà, j'ai pris conscience. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Si je suis un psychanalyste, un psychiatre, je ne sais pas quoi le dire. Parce que la psychanalyse se base dans des mots. Le psychanalyste prend des notes et il est là, de freudien, non? Et la personne parle, il peut parler pendant des années avant d'arriver à parler ce qu'il doit parler. Donc c'est une perte de temps et d'argent parce que c'est payé. Alors, quand c'est payé, les psychanalystes ou la psychanalyste deviennent un prostitué. On me paye pour que je joue le rôle de ta maman ou le rôle de ton papa. Mm-mm. Alors, c'est un échec. C'est comme le cinéma d'amusement. La psychanalyste maintient pour que tranquillement tu puisses résister la vie courante. Mais ne te guéris pas. La unique chose qui peut guérir à quelqu'un, c'est un acte. Quelque chose qu'il n'a jamais fait. Alors j'ai commencé à donner des actes en psychomagie. Si tu es amoureux de ta maman, parce que c'est la première chose que j'ai fait, prends des costumes de ta mère, même si elle est décédée, des vieux costumes de ta mère. Si tu as une maîtresse, habille ta maîtresse avec les costumes de ta mère, avec une photo, fais un masque du visage de ta mère, mets-le à ta maîtresse, et si ta maîtresse déguisée en maman, tu fais l'amour avec elle. Et quand tu arrives à l'orgasme, en lieu de dire le nom de ta maîtresse, crie le nom de ta mère. Et comme ça, tu as fait face à ton
fantasme.
À ton fantasme, et tu l'as réalisé.
Ouais.
Et voilà. Donc, c'est la naissance de la psychomagie, là.
Et cet art qui guérit, comme on peut le voir dans votre documentaire de manière particulièrement intense, mais comme on peut aussi le lire dans un livre du même nom, Psychomagie, qui est sorti en février chez Albin Michel, vous l'avez consolidé intuitivement au fil des années en recevant chez vous 2 personnes par jour, du lundi au vendredi pendant 2 ans, pour des séances 1h30, toujours gratuites, comme vous l'avez dit, au cours desquelles vous commenciez par établir leur arbre généalogique. Et toutes ces expériences vous ont permis de trouver un certain nombre de lois sur l'être humain, les mécanismes de l'inconscient et les symboles.
C'est beaucoup.
Quelles sont ces lois?
J'ai commencé à faire, j'ai un livre qui s'appelle Métagénéalogie. J'ai commencé à étudier l'arbre généalogique des personnes. Et j'ai vu que Freud avait arrivé à chercher dans les parents le mal qu'il y a, qui vient de l'enfance. Mais je me suis rendu compte que c'est une famille entière qui nous marque la vie. C'est la fratrie, c'est les parents, c'est les grands-parents et c'est l'arrière-grand-parent. En total, chacun de nous est marqué au moins pour 15 personnes, pour 14-15 personnes. Et ça agit dans nous tous les temps. Alors, il faut, même à partir du nom qu'on nous met, on est marqué. Notre cerveau est infini, comme l'univers. Et on les met dans une cage familière, sociale et culturelle historique. Et on traîne tout ça parce qu'il y a des trappes dans le cerveau, des préjugés.
Pour comprendre le poids de la généalogie sur l'être humain, j'aimerais citer un extrait de votre livre Psychomagie et le cas de l'acteur et metteur en scène italien Vittorio Gassman, qui est l'un des monstres sacrés de la comédie italienne, le fanfaron par exemple. Un jour, Vittorio Gassman est venu me voir, c'était déjà un artiste célèbre, mais il souffrait d'une forte dépression. En faisant son arbre généalogique, j'ai vu que sa mère désirait qu'il soit acteur et que lui ne voulait pas, ce qu'il a douloureusement payé. Il est tombé malade, il a souffert de dépression. Il était certes célèbre, mais cette vocation n'était pas la sienne. Il ne lui servait à rien d'être un grand acteur. Je lui ai donné plusieurs conseils. Se rendre sur la tombe de sa mère, tuer un coq et couvrir la tombe de son sang, enduire son pénis de sang et pénétrer sa femme avec fureur. Il m'a dit qu'il le ferait s'il n'était pas Vittorio Gassman, mais que, étant ce qu'il était, ses gestes lui étaient impossibles. Il est mort 2 ans plus tard. Je n'avais jamais raconté ce cas, mais c'est un bon exemple. Il montre qu'on peut se réaliser en obéissant aux autres, et même réussir, mais que si on n'est pas heureux, cela ne sert à rien.
C'est vrai. J'ai cherché aussi beaucoup de maîtres, et au Mexique, j'ai trouvé un maître japonais zen, et Yotakata, 5 années, j'ai étudié avec lui.
Ah oui.
Moi, je n'ai pas su quel âge il avait. Il aurait pu être en jeune, en vieille, il n'avait pas d'âge. Première leçon que j'ai reçue, on ne peut pas savoir son âge. Et après, sans me connaître, il m'a souri comme si j'étais son grand ami. Et il m'a amené vers un mur où il avait un signe japonais. Et il m'a introduit, il m'a dit « Bonheur, félicidade, bonheur ». Et avec ça, il m'a donné la phrase profonde et centrale, la racine première du bouddhisme zen, « Avoir le bonheur ». Ça, c'est le but de tout ça. Et bon, en parlant dans des termes plus compréhensibles, no? Appelons le bonheur satisfaction. Nous avons, selon les tarots, épée, coupe, bâton, denier. 4 symboles. Épée, intellect. Coupe, émotionnel. Bâton, sexuel. Denier, la corporalité. No? La réalisation d'un être humain est si mentalement je suis satisfait. Si mentalement, si émotionnellement, je suis satisfait. Si sexuellement, je suis satisfait. Et si matériellement, corporellement aussi, je suis satisfait. Si je ne suis pas satisfait, je peux être un salaud, criminel, voleur, n'importe quoi. Le bonheur, c'est la satisfaction. Et il faut savoir quelle est la satisfaction majeure. Pour moi, quelque part, vivre autant d'années que va vivre l'univers. Ça serait mon bonheur pour moi, non ? N'est-ce pas ? Donc je ne l'aurai pas. Donc quand on n'a pas la satisfaction et le bonheur, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne peut rien faire pour ça, on laisse que ça se fasse d'une petite façon. Alors, on a le bonheur de voir une petite fleur, de faire un film, de faire un poème. On accepte les petits bonheurs. En sachant que les grands bonheurs, mais il va falloir qu'on change complètement et qu'on devienne une autre chose pour avoir le grand bonheur.
She's not a girl who misses much.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Oh yeah. She's well acquainted.
naked with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up. Cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Le bonheur est un pistolet chaud, maman! Chanté par les Scarabées sur le double blanc en 1968. Les Beatles, qui ont bien connu mon invité d'aujourd'hui, Alejandro Jodorowsky, le cinéaste, poète et scénariste chilien, grand admirateur de son film El Topo en 1970, John Lennon et sa compagne Yoko Ono ont largement participé au financement de La Montagne Sacrée, le film suivant de Jodorowsky, sorti 3 ans plus tard, et pour lequel le réalisateur avait demandé à George Harrison d'interpréter un rôle. George répondit « J'aime bien le script, j'ai envie de faire le film, mais il y a une petite chose que je ne peux pas faire. » Jodorowsky a demandé « Mais quelle petite chose ?» Et Harrison a répondu « Eh bien, à un moment, dans la piscine avec l'hippopotame, je dois nettoyer mon trou de balle devant la caméra. J'ai pas envie de le faire. » Voici comment Jodorowsky a réagi. « Je suis très très content que tu aimes le projet, mais ce moment est vraiment très important pour le film. Et tu es la plus grande star. Et si tu montres ton anus, eh bien, ce sera l'illustration la plus fantastique de l'humilité de ton ego. » Harrison a répondu « Non, je ne peux pas faire ça. » Et Jodorowsky a dit « Bon, bah, je ne peux pas travailler avec toi. » Et c'est ainsi qu'il a perdu des millions de dollars. Dans l'autre sens, rappelons-nous également du refus catégorique de Jodo quand John Lennon lui a demandé de traduire sa chanson Imagine en espagnol. Jodorowsky pensait que c'était un art populaire, beaucoup trop populaire, les chansons des Beatles. Il était un peu snob, ce qu'il regrette aujourd'hui en riant. Je voulais un art sans concession, j'étais un peu paranoïaque et j'ai raté mon coup.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Des actes psychomagiques, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est la pensée d'Alessandro Jodorowsky qui m'a beaucoup inspiré. Et en fait, l'idée, c'est un acte qui m'avait prescrit il y a quand même plus de 10 ans, en fait. Et j'étais censé juste le raconter, en fait. J'étais censé le raconter et pas le revivre, parce que j'avais pas forcément envie de le revivre aujourd'hui. Mais sauf qu'avec Alessandro, tout se passe pas forcément comme prévu, et du coup, c'était plus intéressant sur le moment de faire quelque chose qui était absolument pas prévu. C'est-à-dire de vivre quelque chose, en fait, de vivre, de se laisser vivre une émotion qui vous prend et après de sortir dans la rue, de se balader et de laisser remonter les choses comme ça. Son idée fondamentale, c'est de parler la langue de l'inconscient, quoi. C'est de court-circuiter le rationnel et de faire des choses dans la vraie vie, des actes réels, physiques, mais qui parle à l'inconscient, en fait, qui soit dans une langue poétique et inconscient, et du coup, que le subconscient puisse reconnaître et qu'il puisse s'imprimer dans le subconscient. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et c'était un moment libérateur, quand je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je l'ai revu juste une fois, et voilà, j'ai lâché quelque chose. Il y a d'autres actes dans le film qui sont remarquables, dont un mec qui est totalement qui a aussi un grave problème avec son père, qui a un père très très destructeur, et lui il a juste envie de se suicider, et Jodo lui propose d'organiser symboliquement bien sûr sa propre mort, et donc le mec s'enterre et creuse sa propre tombe, se met dans ce truc, et après Jodo sur la tombe lâche des steaks, et il y a carrément des vautours qui arrivent, des vrais vautours, et qui bouffent le steak comme... et voilà, c'est une mort symbolique, et après le mec se déterre lui-même et il se dit putain voilà, je suis mort à mon passé, maintenant je renais, je suis un nouvel être. Et l'inconscient a vraiment imprimé qu'il a vu sa propre mort, quoi. L'inconscient a vu sa propre mort avec les vrais vautours, des vrais vautours, quoi, qui bouffent ton cadavre, en fait. Donc ça peut aller assez loin dans le... Et à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque de la tristesse, j'avais fait plusieurs actes psychomagiques avec Alessandro. Et donc voilà, c'était un peu un souvenir de ça, mais un souvenir qui est redevenu vivant.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Parmi les personnes qui se livrent dans votre film à un acte psychomagique, il y a un artiste très familier des auditeurs de Radio Nova, c'est Arthur Ashe.
Ah, là, c'est différent.
Qui se met, excusez-moi, littéralement à nu dans un acte de libération vis-à-vis de son père, Jacques Higelin, chanteur et compositeur comme lui. Alors, il y a quelques semaines, au micro de cette émission, Arthur Ashe m'a dit qu'à l'époque de son album Adieu Tristesse, c'était en 2005, il a accompli plusieurs autres actes psychomagiques en votre compagnie. De quoi s'agissait-il ?
Ça, j'ai connu Arthur Ashe parce qu'il était un grand ami de mon fils. Adam, qui à cette époque s'appelait Adanovski, c'était chanteur, c'était copain de lui. Alors il venait à la maison, et comme il avait un problème, ben, je l'ai vu. je lui ai donné un problème. Un acte que je lui ai donné deux ou trois actes avant le film, non? Parce qu'il avait un conflit avec son père. Parce que son père était distant. Dans le film, tu vas voir les problèmes. Parce que
c'est clair.
C'est la vie de.
Oui.
C'est Ingrisen, avec des personnes communes. Comme tout le monde. Mais je voulais donner un petit exemple, un seul d'un artiste, pour voir qu'un artiste aussi pouvait le faire. Et qu'avec lui, une fois, je lui ai dit, à Arthur Ashe, je lui ai dit, écris une chanson que tu chantes avec ton père. C'est ça que tu pourrais être avec lui. Et il l'a fait. Il a beaucoup de succès en parlant avec son père. Une autre fois, je lui ai dit, maintenant, il faisait des concerts, déjà, je lui ai dit, sors à Villiers, comme ton père, parce que ton père a des costumes que tu me dis flamboyants. Et pendant que tu chantes cette chanson avec ton père, jette le chapeau, jette la veste, jette la chemise de ton père, jette les pantalons de ton père, les chaussures, reste à poil.
C'est exactement ce qui se passe dans votre film.
Il te l'a raconté, ça ?
Non, j'ai vu le film, ça se voit dans le film.
C'est différent, mais il a fait ça devant en public.
Hein. Ah, il a fait ça en public ?
En public.
Ah oui, je ne savais pas. Ah,
et après, il avait une petite valise et il s'habille de lui-même. Et il se reconnaît à lui-même.
Ah oui.
Il arrête d'imiter le père.
Pas mal.
Et là, je l'ai pris parce qu'il était très, très triste. Parce que son père était mort et il n'arrive pas à s'en sortir d'une petite dépression qui l'a marqué de comment se libérer de la douleur ou de souffrir pour la mort de son père. Alors, c'est là que sort de mon film. Je l'ai fait. Et là, on a mis la chanson qu'il a fait avec son père. Et je me suis dit, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre si on n'est pas la chanson. Mais ils vont sentir qu'il y a une guérison là.
Regarde comme je vis, regarde comme je suis. Vois mes enfants rire et courir.
de pays, tant de femmes aussi.
Ma porte est ouverte, la nuit est si froide. Viens près de moi, viens t'apaiser, je cherche la lumière, j'aime sa chaleur.
Merci mon gars, mais je sens déjà que la route m'appelle, c'est le destin du voyageur.
Jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours en compagnie du cinéaste, scénariste, poète, dramaturge et psychomage Alejandro Jodorowsky. Je rappelle que nous sommes chez vous, dans votre salon, pour la première émission de la saison. Alejandro, parmi les artistes, selon vous, qui ont réussi à guérir, qui se sont réalisés, vous citez toujours dans votre livre Psychomagie, publié en février dernier, l'écrivain français René Daumal, l'auteur du Mont Analogue ou de La Grande Beuverie, où il évoque indirectement ses expériences métaphysiques. À l'inverse, toujours à propos des artistes, vous citez des écrivains qui ont, selon vous, échoué, comme Garcia Lorca, qui vous fait de la peine, ou encore, et là je vais lire un petit extrait du livre, des artistes qui clament que ce monde est foutu, que c'est une horreur, que nous n'arrivons à rien, que Dieu est mort. Et toutes ces histoires, la mauvaise littérature, c'est ça. Montrer son nombril, raconter qu'on a bu son café au lait le matin, au milieu du malaise général, alors que tout est pourri autour de soi, pendant que tout le monde agonise, moi je bois mon café au lait, ou j'effectue mon petit acte sexuel. C'est dépassé, il faut traverser le rideau névrotique. Moi par exemple, c'est vous qui parlez, j'avoue que je suis incapable de lire Proust, il est trop malade pour moi et pourrait me transmettre sa névrose. Je vois chaque jour des cas de névrose. Pourquoi irais-je lire d'autres malades? Aujourd'hui, Kafka se promène partout.
Mais... Oui, par Kafka, je suis maintenant, les prochains mois commencent dans, je ne sais pas comment s'appelle, le théâtre, c'est à Montparnasse.
C'est le théâtre du Lucernaire.
Lucernaire.
Vous parlez de votre texte, Le Gorille, le adapté gorille. De Kafka, si. Interprété par votre fils, oui. qui jouera jusqu'au 3 novembre, me semble.
Et ça a été un grand succès, ça marche, ça met les gens. Mais moi, j'ai fait la moitié. On peut dire que ça me prend de collaborer avec Kafka. Mais Kafka, avec sa névrose, a fait une idée bonne qui arrête dans la moitié dans l'échec. Et moi, j'ai réalisé cet angorille qui vient en ville, non, il est chassé, il devient être humain pour s'échapper, parce qu'on ne le met pas dans les eaux.
Quitter la cage.
Mais là, il se réalise, il devient un grand empresario, il se marie, il fait tout avec pour l'argent, non? Et bon, et à la fin de la pièce, il dit, je ne suis pas ni homme, ni animal, ni gorille, qu'est-ce que je suis? Et là, son illumination, il dit, je suis un être. Il découvre ce que c'est un être libéré spirituellement. Ça, c'est l'histoire. Bon, les politiciens n'ont pas un développement spirituel. Et ça va de pire en pire. Au Brésil, à les États-Unis, en Argentine, partout, il y a ces clowns qui sont là, qui pensent que la popularité, n'est-ce pas, en Angleterre, que la popularité, c'est vraiment l'esprit collectif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la popularité, c'est des personnes qui ont les pires poncifs patriotiques. Non? Ils sont à la défense de ce que j'ai, à la défense de mon moi, à la défense de mes limites. Tandis que l'esprit spirituel, c'est je suis collectif, je suis là en ce moment dans la planète Terre. Hein? Et je sais que je suis dans le système solaire à des vélocités incroyables, je sais que je suis dans l'univers. Je ne vais pas me mettre des limites.
Si j'ai cité le passage de votre livre sur ces écrivains qui ont, selon vous, guéri ou échoué, c'est que dans cette classification, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on dirait que les gens malheureux sont incapables de produire une œuvre d'art convenable. Oui. Est-ce que c'est pas un peu arbitraire ?
Non, 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 non. Parce que les gens qui sont malheureux doivent guérir son malheur. L'art qui ne sait pas qui guérit, l'art essaye de guérir, donne le chemin de la guérison. N'est-ce pas ? Mais le chemin de la guérison, c'est on te montre ce que tu pourrais arriver, et toi tu dois arriver, toi-même. Dieu te dit, il y a une échelle ici, et toi tu dois la monter. Tu vois, c'est ça. Sinon, si tu ne solutionnes pas tes mal, comment tu vas faire? Si tu es non, et tu ne te conformes pas avec un non, comment tu peux guérir? Tu te conformes avec être un non, et à ce moment-là, le monde s'ouvre pour toi. Parce que toi, tu as accepté. Il faut être ce que l'on est et pas ce que les autres veulent que tu sois. Et pas ce que les autres t'obligent à être.
J'entends bien, mais quand Proust et Kafka explorent, construisent patiemment pendant des années, des décennies leur œuvre d'art, ils sont aussi dans une exploration cathartique de leur personnalité oui. pour tenter d'aller mieux. Oui. Et on ne peut pas disqualifier leur œuvre.
Non, disqualifier l'œuvre, ils sont des artistes d'une époque. Parce que l'époque est là. Mais compare-toi l'époque de Kafka et notre époque. Si notre époque est extrême. On ne se rend pas compte, mais notre époque est extrême, est à l'agonie. L'atmosphère est à l'agonie, l'océan est à l'agonie, les rivières sont à l'agonie, les plantes sont à l'agonie, nous sommes dévorés par les cancers, pour des maladies, non? Pour des allergies. Jamais l'humanité et la planète a été dans cet état. Et c'est un état dangereux, il faut le comprendre. On se joue ici la survie de la race humaine et la survie de la planète. C'est pas un jeu.
Donc on ne perd pas son temps à lire Proust ou Kafka maintenant parce que
C'est du temps perdu.
Il faut trouver des moyens de soigner l'humanité oui. et de guérir la planète, quoi. C'est ça.
Oui, et il faut que tous les écrivains, tout ça, soient à Internet.
Soit à Internet.
Si, faire à Internet. Ah, oui. oui, on me connaît maintenant. Mais je ne sais pas. J'ai travaillé avec mon nom pour le dissoudre. Je ne vis pas avec un nom comme je ne vis pas avec un âge. Non, et je ne vis pas avec une nationalité. Ça, j'ai dépassé ça. J'ai le droit. Personne ne va m'emmerder pour ça. J'ai dépassé ça. C'est un grand bénéfice de la vieillesse. Pour les gens, j'ai un pied dans la tombe déjà. Pour les gens, je suis un mort vivant. Parce qu'il y a très peu de personnes qui pensent à 90 ans. 3 ou 4. Et les autres ont dit, ah, 70 ans, c'est un petit vieillard de 70 ans. Pour moi, c'est un jeune. Moi, j'ai découvert l'amour. Total, à 70, avec Pascal. Enfin, j'ai trouvé le bonheur émotionnel. Il y a 15 années, au prix qu'on est ensemble, je l'ai trouvé. Si à 70 ans, j'ai dit que j'étais un vieillard, que la vie était finie, j'aurais connu le bonheur terrestre. Tu comprends?
Et c'est ici. Chers auditeurs, chères auditrices, que se termine le premier épisode de cet entretien avec Alejandro Jodorowsky. Dimanche prochain, toujours de 12h à 13h, nous parlerons avec lui de sa légendaire adaptation abandonnée du roman Dune de Frank Herbert, de son remontage de son film Le voleur d'arc-en-ciel, de son utopie sociopolitique visant à élire un président et une présidente en duo complémentaire au sommet de l'État, ou encore de ses innombrables projets à venir, dont le troisième et dernier volet de sa trilogie autobiographique, Le voyage essentiel, après La danse de la réalité et Poésie sans fin. Fin donc de la première émission de cette saison 9, qui passe désormais, vous l'aurez compris, au rythme hebdomadaire. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabot, toujours aux manettes. Comment tu te sens, mon grand ?
Ça va.
La rentrée, ouais ? On y va ?
Ouais, ça roule.
Il a faim.
Programmation musicale, Michael Lio. Bon après-midi, bon dimanche, besitos. Et comme l'a dit Jodo, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.